I told you which one.
Donc, le forum, c'est discuter un petit peu de qui sont les zadistes, socialement, politiquement, et puis comment nous, en tant que
les différentes formes, prises par l'opposition au grand projet. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à ces mobilisations, on est solidaire jusqu'à un certain point. C'est évident que quand des habitants de telle ou telle localité sont menacés par des décisions prises par une grande entreprise du BTP, en complicité avec les politiciens locaux, on ne peut que partager leur défiance. Dans la société capitaliste, eh bien oui, les petites gens savent très très bien que derrière les grandes déclarations sur l'intérêt général, il y a souvent des intérêts très particuliers, des multinationales. Et les capitalistes n'ont que mépris pour les travailleurs, n'ont que mépris pour leur environnement. Donc il y a une défiance qui se comprend entièrement. Et quand la population locale se mobilise justement pour obtenir plus de transparence sur les grands projets, et puis quand on s'aperçoit que les grands projets, en l'occurrence, n'ont aucune utilité sociale, bien souvent, c'est vrai, avec leur seul objectif, c'est de faire rentrer du public dans les loges de Vinci, dans les loges de telle grosse entreprise, et bien oui, nous, bien sûr que nous sommes moralement du côté de ceux qui protestent. Par exemple, dans le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on a pris position contre cette construction. Nathalie Arthaud, pendant la campagne présidentielle de 2012, a pris position contre ça. C'était évident, c'était juste un grand marché bien juteux pour les criminels. De même, dans notre journal, Le Monde Hier, vous êtes familier simplement, on a écrit des articles pour dénoncer la construction du budget des Lyons du Rhin. Là encore, un projet dont l'utilité sociale est tout à fait évidente. D'ailleurs, ce n'est pas du tout cette solidarité qu'on peut avoir pour ces mouvements-là. Dans les années 70, on avait déjà affirmé notre solidarité, par exemple, avec la mobilisation des paysans travailleurs, qui s'était opposé à l'extension du camp militaire de l'Arzac, célèbre. De même, on avait exprimé la solidarité avec les luttes en Bretagne, à Plogoff, dans la culture d'une centrale nucléaire. Bien sûr, ça c'est des choses qu'on peut dénoncer, et on a dénoncé bien évidemment aussi la répression policière à Sivens, et la mort du jeune Rémi Fraisse, à 21 ans, et toutes les manipulations policières qu'il y a pu y avoir avec ça, comment on a essayé de cacher vraiment la vérité sur la répression à la population. Mais cette solidarité qu'on a, je vais quand même commencer par la rappeler, ça ne veut pas dire que nous partageons l'ensemble des discours des opposants au grand projet, et encore moins les discours de ceux qui se disent d'être. D'abord, les mouvements contre l'implantation de tel ou tel équipement dans une localité peuvent être compréhensibles, on l'a dit. Mais ils ne sont pas toujours justifiés au regard des intérêts de la société au sens large. Il y a des grands travaux, même sur le capitalisme, notamment quand c'est conduit au développement des transports en commun, des logements sociaux. Il y a des travaux qui, même quand ils occasionnent une gêne temporaire, ce serait ridicule de réclamer l'abandon des travaux. On peut très bien comprendre que des petits commerçants soient excédés par la construction d'un tramway qui va être un peu gêné de commerce pendant quelques semaines. Mais cela dit, le bénéfice à long terme va exister souvent pour la population travailleuse. Et ce serait ridicule de s'arrêter à des considérations aussi localistes ou aussi éphémériques. Et on ne peut que noter, c'est quand même un point commun de ces mobilisations, que bien souvent l'opposition aux grands projets représente une forme d'égoïsme social qui pourrait se résumer par le slogan « Pas de ça chez moi ». C'est-à-dire, nous on est contre l'aéroport chez nous, mais enfin, si vous voulez aller faire dans une autre région, là on s'en fout un petit peu, on s'en occupe pas. C'est quand même souvent ça. Et ça revient un petit peu à faire passer les intérêts d'une fraction de la population locale, comment que la société, la collectivité au sens large, et ça n'est jamais. Un autre aspect contestable de ces contestations, c'est le rejet des grands travaux en général, presque par principe au nom de la défense de l'environnement. Le courant écologiste, et en particulier sa branche dite décroissante, sont présents, voire très présents dans les différentes ZAD, et ils s'en font des promoteurs au nom d'arguments qui sont parfois, on peut dire quand même, franchement rétrogrades. Ça peut très bien être opposé, nous sommes, à certains projets qui sont coûteux et utiles dans la vie, sans être opposé aux grands travaux en général. C'est évidemment quelque chose qui est tout simplement révoltant, parce que, ok, on peut dire que c'est des prouesses architecturales, mais enfin, ça va être des sièges sociaux de grandes sociétés, de grandes banques, tout ça avec le sang d'ouvriers, quand même, qui travaillent dans des conditions esclavagistes. Vraiment, là, c'est des travaux qui servent à rien. Mais pourquoi qu'on a dit ça? Ça veut pas dire que les grands travaux dans le domaine du logement, il n'y en a pas besoin. Et prenons par exemple le cas du sous-continent indien. L'Inde, 1 milliard d'habitants, dans les mégalopoles indiennes, la moitié des habitants vivent dans des bidonvilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut quand même dire que dans les décennies qui viennent, si on veut qu'en Inde, les gens utilisent des conditions plus correctes, ce qu'il faudra, c'est pas moins de grands travaux, c'est plus de grands travaux, c'est ça l'évidence. Et quand la classe ouvrière en Inde, espérons-le, parlera des règles de l'économie, là, ce qu'elle aura à faire, c'est à organiser des grands travaux, certainement pas à décréter qu'on les travaille. Alors, il y a un autre constat, plutôt le même constat qui peut s'imposer au niveau des grands travaux, quand on sait par exemple les problèmes d'accès à l'eau potable qu'il va y avoir en Afrique, des problèmes de transport en commun. Il y a des pays africains où il y a une seule ligne de chemin de fer, et encore en deux états. Donc, tout ça pour dire que vraiment, si on veut que l'humanité sorte de ce qu'on va appeler sa préhistoire capitaliste, eh bien, ce sera par des grands travaux, et qui relèvent des grands travaux d'une ampleur qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Mais la différence avec ceux qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce serait sous une planification démocratique de la production, hein, et à une échelle internationale. Et ça, nous, on pense, en tant que marxiste, bah, que ce sera possible sans destruction de l'environnement, sans exploitation de l'homme par l'homme, dès lors que le moteur de l'économie, ça, ce sera de chercher à satisfaire des besoins humains, hein, et non pas la soif de produits de quelques-uns comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, plus il me semble, en résumé, que quand les analystes désignent la croissance ou le productivisme comme la cause des grands projets inutiles, on pense qu'ils se trompent et qu'ils trompent les gens qui les écoutent. Les grands projets actuels sont visibles parce que ceux qui en prennent l'initiative, ben, c'est des capitalistes. Et les hommes politiques sur lesquels aucun contrôle ne s'exerce, et ben, c'est dans la nature du système actuel qu'ils n'ensuivent pas la population là-dessus. Et donc c'est dans la nature du capitalisme, et c'est ça la vraie cause, si ces projets-là sont destructeurs de l'environnement et de la vie des gens. Alors donc, nous, bien sûr, empêcher certains de ces projets de se réaliser, ben, on est d'accord, mais proclamer que l'humanité ne fait se primer des grands travaux en général et qui revient, pourquoi pas, à la bougie, au rouet, etc., ben, ça nous paraît plutôt imbécile, hein, et c'est trop. Alors, toujours sur ce thème, les zadistes, vous avez entendu certainement, ils prétendent que par leur micro-expérience locale, ils pourraient offrir des solutions aux problèmes globaux engendrant le capitalisme aujourd'hui. Là aussi, on pense qu'ils font fausse route, hein, et qu'ils aiguillent les gens qui sont une mauvaise voie, pas garage. C'est pas que la constitution de toute société tente de fonctionner sur un modèle différent du capitalisme, ce soit forcément condamnable, utile. Pourquoi pas? On peut revenir à l'époque de Marx et d'Engels, au niveau des siècles. À cette époque-là, il y avait un mouvement qui s'est développé, qui était le mouvement des coopératives ouvrières. Et Marx et Engels, après tout, ils ont salué ce développement des coopératives, en voyant la démonstration qu'à petite échelle, même à quoi les travailleurs avaient la capacité de gérer leurs affaires sans patron. Et c'était donc un signe encourageant quant à la possibilité, à long terme, d'un monde socialiste. Bon. Mais il y a quand même une grosse différence avec les ZAD aujourd'hui. C'est que Marx et Engels, les coopératives ouvrières qu'ils avaient sous les yeux, c'était quand même des coopératives gérées par des travailleurs, montées par des travailleurs, hein, et qui concevaient ce développement coopératif comme une étape, mais comme un moyen parmi d'autres vers une socialisation de toute l'économie. Hein. Leur perspective à long terme, ça reste quand même ça. Le remplacement du capitalisme à une large échelle par la petite part par les travailleurs. Or, avec les zadistes, on n'a rien de tel. Vraiment rien de tel. Qui sait, en général, souvent, bon, des étudiants qui ont arrêté d'étudier, qui ne se réclament pas spécialement du camp des travailleurs, du camp des exploités, avec qui n'ont pas pour horizon, enfin, s'ils avaient, ils le seraient, ils n'ont pas pour horizon la prise en main de l'économie par la classe ouvrière, par le monde du travail. Un monde pour lequel, quand même, il faut le dire en passant, ils expriment souvent un certain mépris, les traitant un peu comme c'est des moutons. Hein, ceux qui veulent aller se faire exploiter dans les usines, c'est un peu des moutons intégrés au système, lesquels n'ont rien à attendre. Et donc le but souvent des zadistes, c'est quand même, ça ressemble un peu, vous savez, après 68, à ces communautés veulent aucune solidarité avec le mouvement communiste. Oui, avec les idéaux socialistes et communistes, dont des générations de militants privés ont été déporteurs par le passé. Et même, pour dire, les âmes, elles cultivent leur marginalité, cultivent leur isolement, mais pratiquement en présentant ça comme une qualité, non pas comme des défauts. J'ajouterais que même quand les analystes appellent à ce qu'il y ait des âmes partout, ça pourrait sembler être quelque chose un peu plus ambitieux, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce mot d'ordre? Ça ne peut pas dire grand-chose. À supposer qu'on arrive à déjouer tous les grands projets utiles, en ce moment, c'est vrai qu'il y en a des dizaines avec surtout la France, mais à supposer qu'on arrive à la fin de ces projets, le capitalisme n'en continuerait par moins pas moins de tourner. On peut mettre un grain de sable, deux grains de sable, 200 grains de sable dans la machine, et ces usines, elles continueraient d'exploiter les salariés, elles continueraient de produire des marchandises utiles aux politiques et à les vendre, les supermarchés continueraient à exploiter leurs employés, à exploiter les producteurs et les consommateurs, les banques continueraient à voler les épargnants et à asphyxier le petit commerce, les grands pays, les grands états impérialistes continueraient à bombarder la planète, notamment les pays récassément à leur domination. On ne voit pas comment la multiplication des âmes pourrait, en quoi que ce soit, changer quelque chose à ce fonctionnement quand même bien huilé du capitalisme au niveau mondial. Alors, c'est vrai, il y a des analystes qui prétendent que la multiplication des âmes va finir par créer tellement de poches de résistance au capitalisme qu'il va finir asphyxié, il va mourir étouffé, et il va laisser la place à un grand réseau mondial de coopératives comme ça autogérées. D'ailleurs, il y a même des journalistes un peu admiratifs des âmes qui prétendent que ça, c'est une vision politique nouvelle. Bon, là encore, c'est des choses qui ne sont pas des nouveautés. Marx et Engels, à leur époque, ils ont eu à combattre sur le plan des idées ces analyses-là. Et puis je dirais même que c'est le développement du capitalisme sur cette époque-là qui a rendu ce scénario-là complètement invraisemblable. Bon, ça rappelle un peu les idées initiales de quelqu'un qui s'appelait Proudhon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Proudhon, qui est un contemporain de Marx, c'est à la moitié du 19e siècle. Bon, il disait en gros que face à l'exploitation capitaliste, les travailleurs ne font pas qu'ils fassent de syndicalisme. Il ne faut pas qu'ils fassent de politique. Il faut qu'ils quittent les usines et puis qu'ils montent leur boîte à eux, qu'ils gèrent eux-mêmes. Et puis, à force que si tous les ouvriers quittent les usines, le système tombera lui-même. Il n'y aura pas besoin de la faire. Bon, le problème que ça, on peut tous le constater quand même, c'est qu'à prendre l'histoire du capitalisme depuis un siècle, depuis la mort de Proudhon et depuis celle de Marx, qui c'est qui a conquis la terre entière depuis cette époque-là? C'est pas les coopératives anglaises. C'est le capitalisme qui a imposé sa loi à la terre entière. Et ce qui s'est passé, il y a les coopératives qui, pour la plupart, ont été rayées de la carte parce que la compétition économique avec les lois du marché ne tient pas la route. Et puis il y a une minorité, une poignée de coopératives qui, elles, ont survécu. Mais en général, quand elles ont survécu, c'est en se pliant aux exigences du marché et en devenant des entreprises, on va dire, à peu près comme les autres. C'est-à-dire des entreprises qui ne menacent absolument pas leur métabolisme. Et ça, c'est un peu la leçon qu'on peut retenir du siècle passé. C'est que la multiplication, que ce soit des ZAD, comme on dit dans le média actuel, ou des coopératives pour reprendre des plus anciennes, ça ne marche pas comme alternative à la prise du pouvoir par les travailleurs pour renverser le capitalisme. Voilà ce qu'on peut constater. Bon, en étant un petit peu provocateur, ça c'est pour lancer le débat, on pourrait dire que la résurgence de ces vieilles idées mutualistes ou coopératives du 19e siècle ou un peu anarchisantes au sein de notre cadre littéraire du 19e, finalement ça illustre assez bien le fait que le capitalisme est monté sur place et même dans les Grèces, c'est ce qu'on a vu à certains. C'est des vieilles utopies qui sont généreuses sans doute, mais on peut dire que l'histoire a déjà tranché le débat national. Alors après, nous on pense que la constitution des âmes, ça peut très bien se comprendre comme un outil de protection, mais c'est pas une perspective. C'est pas une perspective pour rendre des perspectives pour toute la société. La même chose est vraie d'ailleurs, je voudrais faire un parallèle, avec la constitution des SCOP. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'usines où quand les travailleurs seront licenciés, le patron décide même de fermer la boîte, il y a des travailleurs qui décident de monter des SCOP en disant on met en commun nos primes et on reprend entreprise. On peut être solidaire de ça, on peut le comprendre, bien sûr, quand on a 50 ans passés, et considérer que de toute façon je ne vais pas retrouver de boulot, il n'y a aucun patron qui va prendre. Pourquoi ne pas certaine manière, si tu prends les pays pauvres, aujourd'hui, partie économique dans les pays pauvres, qu'est-ce qu'on appelle une économie riche, qui est la limite de l'inégalité, et qui est une économie mafieuse, une économie de survie familiale, autogérée si on veut. Et tout ça, c'est des formes rudimentaires d'organisation économique. Et on pourrait même dire que c'est des formes d'organisation économique, oui, qui sont des retours en arrière, qui sont un petit peu indignes quand même de l'humanité au 21e siècle. Et là, je voudrais citer d'ailleurs un économiste favorable aux Indes, hein, c'est un sympathisant des Indes, mais qui a décrit leur type d'économie comme une économie de la démerde. C'est lui-même qui envoie le mot. Mais finalement, c'est une bonne définition, c'est-à-dire que. Bah oui, c'est bien plus que ça. Et ça résume assez bien qu'on pourrait tout, communiste révolutionnaire, bah on n'y voit pas une porte de sortie. On pense que c'est plutôt un symptôme de la crise actuelle qu'un remède à la crise. Alors, bah écoutez, voilà, voilà ce qu'on pouvait en dire pour introduire le débat. En conclusion de l'introduction, si on veut, bah, je dirais qu'on comprend très très bien que les ânes aujourd'hui ça puisse attirer les jeunes révoltés par la société, bien sûr. Les jeunes qui essaient de regarder qu'est-ce qui bouge autour d'eux, qu'est-ce qui bouge aujourd'hui, bah, c'est pas la grève générale des travailleurs, c'est parfois effectivement des mouvements comme ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que, pour reprendre un peu l'expression un proverbe, tout ce qui bouge n'est pas rouge. Hein. Et bah, des jeunes aujourd'hui qui voudraient s'engager pour contribuer au combat pour le renversement du capitalisme hein, à l'échelle de la planète, hein, et pas à l'échelle d'un champ ou de 10 champs ou de 100 champs. Eh bien, on peut leur dire qu'il y a mieux à faire que de rejoindre les âmes, le zadisme, je ne sais pas si le terme existe. Hein, ça peut être une étape, peut-être pour se politiser, sans doute il y a des chances, mais en rester là, nous on pense que ce serait rester dans une impasse. Et s'il y a quelque chose à défendre aujourd'hui, ben, nous on pense que c'est dans telle ou telle zone libérée, plus ou moins durablement, et plus ou moins de la dictature du capitalisme. Hein, on pense que c'est ça qui doit défendre, ben c'est les intérêts de la majorité exploitée de l'humanité. Et cette libération, ben on pense qu'elle passera par le passage de la société communiste à l'échelle mondiale. Et ça, ce ne sera pas sans une politique. Ce ne sera pas sans une politique de voir les travailleurs à très très large. Voilà pour introduire la discussion.
Je m'appelle Gaëtan et je milite à deux questions à l'université du Mirail où Il n'y a absolument pas indispensable d'aller
agricole, d'autres besoin. Sinon, on va revenir sur mon projet de loi, des denrées agricoles qui sont produites. Donc, il y a parmi les aides anti-projets, il y en a certains qui poussent de bouchon de façon inconsidérée, qui méconnaissent complètement les besoins qu'il y a pour la population de banlieue d'avoir des liaisons interbanlieues. Soit obligé de passer par Paris pour aller bosser les 10 km, pour se faire 40 km, d'aller s'en passer dans les lignes qui convergent à la capitale en bas, au lieu ou alors de prendre leur bagnole. Donc c'est anti-écologique de s'opposer à ces projets-là, et pourtant, une partie de ces gens-là, ces opposants au grand parc express, ce sont les gens qui prétendent et les écologistes les plus consistants. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, alors je vais insister là-dessus. J'ai apprécié le ton relativement constructif, même si c'est un peu excessif, mais j'apprécie que le gouvernement se soit sur le j'aurais posé, j'aurais aidé et un petit développement sur la région parisienne, parce que c'est comme on disait de la région parisienne, notamment des stades, des superstades, et là, pour les moins évidents, à l'enquête, on s'habite, on va avoir un stade de rugby, qui sera aussi un stade de secteur, ça va être un rempart pris, plus la moyenne.
Bon, il y a eu beaucoup d'interventions avec beaucoup de points importants dans les sujets. Je vais essayer de ne pas trop laisser en ombre les questions que vous posez. Bon, peut-être en commençant d'abord sur le fait que. Pourquoi nous on a choisi de faire un forum là-dessus, vous l'avez bien compris, hein. C'est pas pour dénigrer les gens qui aujourd'hui s'engagent dans les dalles, c'est pas pour expliquer le fait que ça existe et que ça se doit monter. On l'a dit, c'est combat justifié et c'est comme un tas de combats contre plein d'agissements du capitalisme. Notre propos, c'est pas de dire que les gens qui se mobilisent contre tel ou tel agissement, les gens qui se battent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, bien, contre le Zara, c'est pas bien, mais comme il y a des gens qui se battent, par exemple sur le plan de la lutte contre le racisme, sur le plan de la lutte contre le sexisme, sur le plan de la lutte sur l'environnement, comme ça peut être pour défendre la cause palestinienne, ou même d'un peuple qui est attaqué. Encore une fois, le propos c'est pas de jeter la pierre à des gens qui sont comme ça, qui sont engagés dans un combat, qui est un combat contre une injustice produite par le capitalisme. Mais notre propos c'est juste de dire que y voir des luttes autour desquels pourraient se fédérer les travailleurs et qui pourraient faire avancer vers un ensemble du monde du travail sans lequel on n'arrivera pas à renverser le capitalisme, bien là, on avait envie quand même d'exprimer notre scepticisme là-dessus et simplement de dire que c'est des mouvements qui, à notre sens, ne peuvent pas aller dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui s'engagent là-dedans. Simplement sur le caractère gênant pour les capitalistes, gênant pour la classe bourgeoise dans son ensemble, je sais que les camarades disaient ça, c'est un grand combat anti-capitalisme, permettez-nous quand même d'avoir là-dessus, certaines réserves. On a vu quand même, et je pense que c'est des signes auxquels il faut réfléchir, beaucoup d'hommes politiques se déplacer sur les ânes, aller aux manifestations, dire on est contre l'aéroport, on est contre le barrage, etc. À Nantes, on a vu les écolos, très pratique pour les politiciens écologistes de se dire très très engagés là-dessus, ils sont très radicaux contre ces mouvements-là, mais en même temps ils étaient ministres dans le gouvernement Hollande, et il y avait des critiques sur ce qui était une atteinte à l'environnement, zéro critique sur des mesures anti-ouvrières prises au même moment. Bon, c'est un peu gênant ces choses-là. Pareil pour Mélenchon. Mélenchon et son parti de gauche, ah ben, il est toujours en tête des manifestations contre les ZAD, on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, etc. Mais ça n'empêchait pas dans le même temps de dire, oh, mais si Hérault démissionne, moi je veux bien être Premier ministre de Hollande, pas de problème. Ça, c'est des opposants au capitalisme. C'est des opposants au système. Non. Et alors, ça a dû gêner peut-être ceux qui voient dans les ZAD les avant-goûts d'une société autogérée, anarchique, ou quoi. Mais il faut réfléchir à ça. C'est quand même un signe. Si les hommes politiques peuvent en faire un emblème du mec qui de la contestation aujourd'hui, c'est quand même que ça ne gêne pas tant que ça.
dis quand même que ça ne gêne pas tant que ça la classe capitaliste. Parce que, quand même, ce qui peut gêner aujourd'hui les grands patrons, ben, c'est quand ils sont attaqués au porte-monnaie. Alors Vinci, si l'aéroport ne se fait pas à Nantes, ils vont pleurer 27 heures. Mais Vinci, les Montréal, ils en ont beaucoup d'autres, à part l'aéroport de Nantes. Ils en ont beaucoup d'autres, en plein votre coin, ils ne sont pas ruinés par ça. Ça ne menace pas les patrons, ça ne les menace pas dans leur pouvoir, ça ne les menace pas dans leur profit. Et nous, s'il y a quelque chose dont on est convaincu, c'est que changer la société, ça ne pourra pas se faire sans que la société du propriétaire actuel des capitaux, de ce qu'ils ont entre les mains. Et ça, c'est un combat, forcément un combat de gros échec, à très gros échec, qui ne passe pas par la mobilisation, pas juste des Nantais, pas juste des gens dans le Tarn, pas juste des Lyonnais, des Savinois. Ce sera une lutte d'ensemble de la classe ouvrière. On en a connu en France, des choses comme ça, on est parti en français, on en a connu plein dans l'histoire humanisée. Mais on a connu 36, on a connu 68. Ça, c'est des moments où la classe bourgeoise a réellement eu peur de tout perdre. Mais la peur de tout perdre quand il y a l'économie qui est paralysée, pas juste localement, quand il y a 3 millions de travailleurs en grève. C'est quand même dans ces moments-là que le pas en avant vers une autre société commence à devenir envisageable. Et c'est dans ces moments-là. Alors, c'est pour ça que, pour revenir à la remarque qui s'est faite sur. Dans les notes, la remarque qui est faite sur la coopération entre les Alpes et la commune de Paris. Alors là, bon, c'est pas possible d'entendre ça. La commune de Paris, c'est quand même la première expérience de prise de pouvoir par les travailleurs. Ils ont géré la capitale de la France pendant 3 mois, sans patron. Ça a été un coup de tonnerre, mais dans toute l'Europe. Ça a été un coup de tonnerre mondial. Il a fallu qu'il leur ait dans le sang, vous comprenez. Ça n'a pas été 3 coups de matraque, et puis on est 20 000 morts, ça a été la commune de Paris. C'est à ça qu'on peut mesurer quand même la bourgeoisie. Elle a peur ou quoi, elle n'a pas peur. Quand ils envoient 3 quarts de CRS, c'est que c'est gérable. Et les Alpes, c'est des épines, des mini-épines dans le talon de tel ou tel grand patron. Mais ce n'est pas une menace pour l'ordre capitaliste. Il ne faut pas se raconter l'histoire là-dessus. Je crois que c'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas connu depuis très longtemps des mouvements d'ampleur. Et oui, peut-être remonté en France à 68. C'est parce qu'on n'a pas connu depuis très longtemps des mobilisations importantes des travailleurs que, ben voilà, comme ça, des petites collines peuvent apparaître comme des montagnes. Mais ce n'est pas des montagnes. C'est des petites collines. Alors après, la comparaison avec des mouvements qui peuvent apparaître en Amérique latine, puisqu'il y avait un camarade qui parlait de ça, c'est vrai qu'il y a des endroits en Amérique latine où ça n'a pas été justement peut-être que des gens marginaux ou des paysans du coin qui se mobilisaient. Parfois, c'est toute une ville, toute une banlieue ouvrière, toute une ville ouvrière qui se mobilise contre la privatisation de l'eau, ou contre le fait que des terres vont être accaparées par un grand projet, etc. Vous comprenez bien que ça change complètement de caractère dès lors que c'est la population travailleuse dans son ensemble qui prend en charge ses luttes. À Nantes, ça n'a pas été le cas. À Nantes, c'est pas le cas. À Nantes, c'est pas une lutte qui concerne l'ensemble des travailleurs de Nantes. Il y a un tas de travailleurs à Nantes qui peuvent être ça d'un deuil, mais c'est pas un sujet de préoccupation majeure. Ça va pas bouleverser leur vie, l'aéroport. Mais si vous avez vu le film Même la pluie, en Amérique latine, qui raconte un peu justement là les conséquences que ça pourrait avoir là sur la vie quotidienne des gens, la privatisation du réseau de l'eau. Et là, c'est des luttes, bien sûr, hein, un parti révolutionnaire devrait prendre toute sa place parce que c'est des luttes, justement, en l'occurrence, de la classe ouvrière. Et alors, tu parlais du problème des transports en Ile-de-France, mais bien sûr que ça, c'est des choses où les marxistes sont tous pas différents à ça. Et d'ailleurs, il y a bien des années de ça, la lutte ouvrière, on avait pris nous-mêmes l'initiative d'une campagne dans le métro sur le développement des transports collectifs, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient plus accessibles aux salariés, que le transport de banlieue à banlieue, ce ne soit plus le calvaire que c'est aujourd'hui. On l'avait fait en rentrant dans les rames de métro, en s'adressant directement aux voyageurs. Parce que bien sûr que ces questions de vie quotidienne, c'est hyper important. Et quand c'est les travailleurs qui prennent ça en main et que ça devient une lutte comme ça d'ampleur, et là oui, ça peut déranger la classe patronale. Mais jusqu'à présent, les âges qu'on a eu en France, ça a été des mini-événements quand même, il ne faut pas se le cacher. Alors c'est peut-être un petit peu un petit peu éloigné, mais enfin, puisque ça a été mentionné, un camarade comparait la multiplication des ânes au programme de Che Guevara. Il disait qu'il fallait multiplier des foyers de guérilla à travers le monde et que c'est comme ça que se produirait la révolution. Bon, ça va être difficile en 5 minutes de répondre à ça, mais justement, de même qu'on ne voit pas dans les AS quelque chose qui pourrait déboucher sur des luttes d'ensemble de la classe ouvrière, on ne voyait pas du tout dans ce programme de Che Guevara quelque chose qui pouvait être dans ce sens-là. Che Guevara, c'était un militant nationaliste, alors un militant nationaliste radical, effectivement, qui était anti-impérialiste là-dessus, sincèrement, il n'y a aucun doute, il serait déterminé, c'est un révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse faire connaître, puisqu'il a laissé sa peau. Mais cela dit, la multiplication de luttes paysannes, de guérillas paysannes nationalistes à travers le monde, c'est jamais ça qui permet de faire des pas en avant vers une mobilisation de la classe des travailleurs dans les villes. Or aujourd'hui, le capitalisme planétaire, c'est quoi? C'est un monde qui est urbain aujourd'hui. Les luttes de l'avenir, le renversement de la classe capitaliste, ne sera pas fait par la classe paysanne. Quand Marx et Engels décrivaient le capitalisme de leur époque dans le manifeste du Parti communiste, c'est vrai que l'industrialisation, c'était une minorité de pays. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui a été conquis par la révolution industrielle. C'est dans le monde entier que la classe ouvrière est devenue la classe majoritaire. Et donc, envisager que ça va être la classe des paysans qui serait à l'avant-garde des luttes de demain, c'est quand même... on a l'impression de faire un tour en arrière, c'est pas bon. C'est pas vrai. Si on veut prendre le pouvoir en France, au Louis, au Total, au Michelin, et ainsi de suite, si on veut renverser les Bill Gates, les Rockefeller, les rois du pétrole et de la banque aux États-Unis, ce sera la classe des salariés au sens large qui fera. Ce ne sera pas effectivement à travers les guérillas dont parlait Che Guevara, ni on ne pense pas à travers l'État. Bon, alors. Après, il y a un autre point qui est très vrai là, dans ce que tu disais, Thomas, la clé de Toulouse, sur le fait qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier, si on regarde la CGT, la politique des mêmes, par exemple, c'est pas attirant pour des jeunes qui sont révoltés, qui viennent en découdre avec la société actuelle. Ah, mais ça, c'est vrai. Ah, mais ça, je peux que partager ça avec toi. Aujourd'hui, ce que proposent les directions syndicales, on parle de la France, mais on pourrait regarder plus largement, et je crois que c'est à peu près la même chose, c'est on manifeste le 9 avril. Alors oui, c'est bien, c'est 24 heures de grève, et puis ils disent, et comme ça on a manifesté notre opposition à l'austérité et à la politique du patronat et de Hollande. Bah oui, c'est complètement insuffisant. Bien sûr qu'aujourd'hui, je comprends très très bien des jeunes qui s'imaginent que c'est beaucoup plus radical d'aller se friter avec les CRS à Sivins ou à Nantes que d'aller faire une manifestation. C'est vrai qu'il va sembler un peu plan-plan, c'est un petit peu rituel de bastiller la République, parce que, c'est vrai que c'est pas ça non plus qui va démarcher le grand patronat aujourd'hui. C'est pas politique de Thibault, non, c'est plus Thibault même. C'est pas Le Pen non plus, c'est... voilà. Mais c'est pas leur politique à eux qui va quitter Gataz, qui va quitter Michelin et les autres, on est d'accord. Mais c'est d'autant plus vital qu'il y ait des militants dans la classe ouvrière qui défendent justement les perspectives révolutionnaires, qui essayent de réimplanter cette perspective du renversement du capitalisme à grande échelle et de son remplacement par le socialisme et le communisme. Et nous, on pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'il faut déployer notre énergie. Il n'y a pas de parti révolutionnaire pour les travailleurs aujourd'hui en France, et c'est ça qui manque. Et le succès des études des ZAD, moi je le constate même à la porte des lycées, parce que quand je vais y un max, je le constate devant un restaurant universitaire, quand je vais à la rencontre des étudiants, avec mes camarades du vélo, on le voit, le succès des études des ZAD. Et pourquoi il y a ça? Mais c'est aussi parce que les exploités, aujourd'hui, ils sont... Ils ne répondent pas aux mouvements sur la figure. Et depuis le temps que les travailleurs ne répondent pas, se réclamer de la classe ouvrière et dire la classe ouvrière, c'est elle qui représente l'avenir de la société, ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident pour un ado moyen aujourd'hui qui regarde les infos, de se dire c'est la classe ouvrière. Alors qu'après 68, c'était un peu plus facile. Parce que des grèves, il y en avait 100 fois plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu la grève générale, mais aussi parce qu'il y avait des groupes qui s'en réclamaient du communisme et du socialisme. Et ça aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Alors c'est pas parce que des luttes dans les boîtes, il y en a moins qu'il y a 30 ans, c'est pas pour ça qu'on pense qu'il faut chercher des raccourcis vers le renversement.
C'est un peu ton café, c'est bien. C'est comme ça, les gars.